Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. L'Angleterre eut au cours de son histoire un roi qui fut complètement normal durant les 30 premières années de son règne et complètement fou les 30 suivantes. Oui, cela paraît à peine croyable, mais ce roi qui à la cinquantaine sombra dans la folie du jour au lendemain a bel et bien existé. Il s'agit de George III. Durant 59 ans, il fut souverain de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'une des plus grandes puissances européennes, qui à partir de 1801 devient le Royaume-Uni. Mais comment un tel pays a-t-il pu être gouverné par un fou? Et d'ailleurs, fou, ce roi l'était-il vraiment? Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous propose de nous retourner sur le règne long et très agité du roi George III d'Angleterre. Seconde partie, folie ou maladie? Au cours de son règne, George III aura cinq grandes crises, la plus fameuse d'entre elles ayant duré d'octobre 1788 à février 1789. Il offre alors à son entourage consterné un spectacle ahurissant. Le 11 juin 1788, une semaine après son 50e anniversaire, le monarque est victime d'une montée de bile très aiguë. Il est très agité, fébrile, ressent de violentes douleurs d'estomac. Sur les recommandations de son médecin, il part séjourner 5 semaines dans la station thermale de Cheltenham et semble se remettre. Quelques mois plus tard, même cause, mêmes effets, avec en plus des douleurs aux jambes. Une crise de goutte, pense-t-on alors. Mais d'autres symptômes étranges surviennent bientôt. La façon de parler du roi, d'ordinaire lente et majestueuse à force d'application, devient saccadée, incohérente. Toutes ces phrases sont hachées de « hé hé » ou ponctuées de « quoi quoi » en réalité de « what what » dont l'effet comique est irrésistible. Dans l'ensemble, cette fantaisie semble d'abord inoffensive. On se contente de diminuer la fréquence des grandes réceptions et des sorties publiques. Mais les choses prennent progressivement un tour préoccupant. George III devient insomniaque. Il erre de nuit dans son château en proie à des hallucinations, croit voir Londres sous les eaux. Il gesticule, il a des accès de sueur, délire, ne reconnaît pas sa femme sur laquelle il crache. Il parle, 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 parle et parle encore, une loquacité exténuante à laquelle il semble incapable de résister jusqu'à en avoir l'écume à la bouche.
Je parle, j'entends des mots, j'ai besoin de vider ma tête de tous ces mots.
Ses urines sont bleues. Ce à quoi son médecin, qu'il traite constamment de « vieil étron », n'a aucune explication. Ventouse, purge, saignée, sangsue pour drainer les humeurs, tout y passe. Le roi ne peut plus se gouverner, souille ses vêtements. Un jour, qu'il semble à peu près cohérent, il assiste à une représentation du Messie de Handel à la cathédrale de Worcester. Il se lève et se met à battre furieusement la mesure devant une assistance médusée, apostrophant les musiciens, parlant tout haut. On le voit aussi s'amuser comme un enfant. Un rien le plonge dans une exaltation incompréhensible. Il pose à tout bout de champ des questions souvent indiscrètes dont il n'attend jamais les réponses, passe à autre chose et tout à coup se met à rire à gorge déployée. Levé avant l'aurore, il court partout, en tous sens, saisi d'une curiosité et d'une bougeotte dont rien ne peut interrompre le cours.
Lorsqu'il marche, au chant du chef et roulant les épaules, il ressemble à un pingouin ivre,
commente un contemporain. Tout pingouin ivre qu'il semble être, George III ne souffre pourtant pas d'une maladie mentale, mais d'une affection rare, la porphyrie intermittente aiguë, une maladie du foie qui provoque fréquemment des symptômes mentaux comprenant irritation, agitation, insomnie, fatigue et dépression.
Aujourd'hui, on établirait un diagnostic en regardant uniquement la couleur des urines très caractéristiques, bleu, rouge ou pourpre. Or, on trouve dans les comptes rendus de ces médecins trois références à la couleur des urines. Couleur pourpre, laissant un cercle bleu sur les parties supérieures du verre.
Mais à l'époque, personne ne peut expliquer l'attitude du monarque. Son entourage est stupéfait. Et en même temps, il reste le roi, isn't it? Mais son attitude devient par trop extravagante. Il salue les arbres comme s'ils étaient humains, en leur serrant les branches, et voit le roi de Prusse partout. Il devient impossible de dissimuler plus longtemps que le roi est fou. Lui-même d'ailleurs en convient dans ses moments de lucidité et s'en désole, ce qui navre son entourage. À ce rythme, il maigrit de façon inquiétante et devient si faible qu'il est obligé de se servir d'une canne pour marcher. Il ne supporte même plus la musique qui semble l'épuiser nerveusement. Ses médecins ne savent plus quoi faire. Ils prescrivent le calme et le silence, si bien que Windsor devient une sorte de tombeau où le malheureux monarque est pour ainsi dire enterré vivant. Les cloches ne sonnent plus, la garde est renforcée pour empêcher toute intrusion de curieux. Certains jours, le roi George oublie qu'il est marié avec sa femme et se croit l'époux de Lady Pembroke, un amour de jeunesse. L'automne s'écoule de la sorte avec des alternances d'améliorations et de rechutes. Sur le plan politique, la situation est également très grave. Au moment de la reprise de la session parlementaire en novembre 1788, le roi est tout à fait incapable de prononcer le discours du trône, ce qui met le Parlement dans une situation inextricable. Car selon la loi, il ne pouvait en effet procéder au règlement d'aucune affaire tant que le souverain n'avait pas prononcé le discours permettant l'ouverture du Parlement. Alors même s'il n'a aucun droit de le faire, on commence sous cap à y parler régence. Une personne, une seule, se réjouit en son fort intérieur du drame qui se joue, c'est le prince de Galles. Fils aîné du roi, il ne voit pas d'un mauvais œil la dégradation de l'état de son père. Lui-même mène une vie extravagante, dépensant des fortunes, allant de maîtresse en maîtresse. Celui que l'on qualifie déjà de premier gentleman de l'Europe est monstrueusement endetté. Et William Pitt, qu'il déteste, a refusé de demander au Parlement de quoi éponger ses dettes. Devenir le maître du royaume est donc la seule façon pour lui de résoudre ses faramineux problèmes financiers. Dans ce contexte, la folie de son père est providentielle et il s'en réjouit ouvertement. Il convoque même un aliéniste très en vogue, le docteur Warren, que le roi refuse d'abord de recevoir. En service commandé, le docteur en question confirme le diagnostic de folie incurable et précise que le roi n'en a plus pour bien longtemps. Et quand bien même il survivrait, le fait même qu'il aboie montre à quel point ses facultés mentales sont atteintes. Ces informations malveillantes sont évidemment transmises à Londres, mettant sur la table la question brûlante de la régence. Les partisans du prince de Galles en rajoutent. Le roi se promènerait maintenant nu dans les couloirs de Windsor, ferait asseoir son médecin sur ses genoux pour lui montrer les étoiles. Partisans de Pitt et de Fox s'invectivent au Parlement, multipliant les nouvelles contradictoires, rassurantes ou alarmantes, selon qu'ils en tiennent pour le roi ou pour le prince de Galles. De la santé du roi dépend l'avenir. Mais en réalité, comme le note Chenevix Strange dans son Histoire de la maladie royale,
la question n'est pas de savoir si le roi guérira, mais s'il lui sera permis de guérir.
Pendant que le roi est cantonné à Kew, ses deux fils aînés font l'inventaire de ses biens et mettent sous clé les bijoux de leurs parents. Le prince de Galles, se voyant déjà sur le trône, fait frapper des pièces portant sa devise. Et alors que l'état de son père semble s'être amélioré, lorsqu'il lui rend visite le 23 février, son frère le duc d'York et lui-même, de retour à Londres, n'en affirment pas moins que leur père divague plus que jamais. Mais à leur grande âme, George III semble effectivement se remettre. Fin février, les bulletins de santé sont supprimés et mi-mars, le roi est officiellement guéri. Un service d'action de grâce est donné à Saint-Paul, auquel assistent les deux fils dépités. L'Angleterre, elle, se réjouit de la guérison de son roi débonnaire. Mais George III ne se fait aucune illusion. Il se sait malade et de fait, après une longue accalmie de 12 années, les crises reviendront et se feront plus violentes et plus rapprochées. Inexorablement, l'esprit du roi vacille. De longues périodes de dépression et d'abattement succèdent à des moments d'extrême exaltation. On ne peut plus guère lui demander son avis sur les affaires de l'État. La mort de sa fille préférée, la princesse Amélia, en 1810, lui porte le coup de grâce et achève de lui faire perdre complètement la raison. Le 5 février 1811, sa déchéance est consommée. La cérémonie d'investiture du prince de Galles en tant que régent a lieu à Carlton House. Selon la formule de Guilain de Disbarth qui lui a consacré une biographie,
le roi survivant à son règne n'est plus qu'un fantôme dynastique.
Comme il devient aveugle, phase ultime caractéristique de la porphyrie, on fait matelasser les murs et le mobilier de ses appartements du château de Windsor afin qu'il ne se blesse pas. C'est là qu'il terminera ses jours, en chemise de nuit, drapé dans une ample robe de chambre rouge, coiffé d'un bonnet de fourrure, vagabondant à l'aveuglette, divagant, est-tel le roi Lear de Shakespeare, croyant entendre les voix de ses filles. Il fait parfois de longs discours à ses domestiques médusés, ou reste prostré pendant des heures, la tête sur ses bras croisés. Durant ces crises, il est saisi de convulsions d'une telle violence qu'il faut le maintenir au sol ou le tenir entravé dans une camisole. Sa dernière attaque a lieu avant Noël 1819, soit un mois avant sa mort. Plus de 2 jours et 2 nuits consécutifs, sans dormir et sans cesser de parler de manière incohérente, soit 58 heures à parler de façon ininterrompue. Après quoi, il sombre dans le coma et meurt paisiblement, sans douleur, le 29 janvier 1820 au château de Windsor, à 81 ans et au terme d'un long règne de 59 ans. Quelle fut l'ultime joie terrestre de cet honnête homme si peu fait pour régner ? Pauvre créature douloureuse, aveugle et quasiment sourde, sans doute dégrainée sur sa flûte qui ne le quittait jamais, quelques notes de Handel, car l'un des plus grands moments de bonheur de son existence, de son propre aveu, avait été non pas celui de son avènement, ni même celui de Trafalgar, mais ce jour inoubliable où il avait pu chanter, accompagné au piano, par le grand Wolfgang Amadeus Mozart. Longtemps après sa mort, la cote de ce monarque a été au plus bas des deux côtés du Channel. Les Anglais le tenaient pour le fou qui leur avait fait perdre l'Amérique. Et pour nous, Français, il restait ce maudit roi d'Angleterre qui nous a volé les Indes et le Canada et infligé à Trafalgar la plus grande défaite navale de notre histoire. Entre les fiascos de son règne et sa camisole de force, mal aimé, vilipendé, raillé, caricaturé, le malheureux Georges III a longtemps sombré dans l'oubli, ne laissant que le vague souvenir d'un pauvre être souffrant, halluciné, égaré, errant en robe de chambre dans les couloirs capitonnés du château de Windsor, où s'acheva sa triste vie. Cependant, si quelques 30 000 personnes vinrent assister à ses obsèques, censées pourtant être privées, c'est bien qu'il avait été aussi aimé et respecté. Plus indulgents que leurs prédécesseurs, les historiens du XXe siècle ont contribué à le réhabiliter, partageant l'opinion d'un Sir John Fraser lorsqu'il écrit
« La plus grande catastrophe de toute l'histoire de la Grande-Bretagne, la rupture avec l'Amérique, ne serait sans doute pas survenue si George III n'avait été à la fois d'intelligence médiocre et honnête. »
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach, j'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.